RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Les travailleurs migrants indonésiens souhaitent que le visa pour les enfants soit facilité. Les petites et moyennes entreprises participent à l'exposition du bâti à Eiffel. Le gouvernement indonésien est demandé de résoudre les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'industrie manufacturière améliore la production après les vacances de l'Idul Fitr. 50 millions de rupiah d'investissement privé vers le village. Chermin nous présente maintenant le journal complet. Les travailleurs migrants indonésiens ou TKI en Malaisie apprécient le changement de service effectué par l'ambassade de la République d'Indonésie à Kuala Lumpur. Selon une travailleuse indonésienne qui a travaillé en Malaisie pendant 7 ans, Yola, il y a le bon changement. Yola, qui a rencontré RRI dans la région de Bukit Bintang mardi, espère que l'ambassade d'Indonésie peut résoudre les problèmes qu'elle connaît actuellement, à savoir l'accès à ses enfants qui sont actuellement difficiles de sortir et d'entrer en Malaisie, causé par les règlements que les travailleurs étrangers qui ne sont pas autorisés à se marier et avoir des enfants pendant qu'ils travaillent en Malaisie. Selon elle, actuellement, bien que le gouvernement malaisien offre aux ressortissants étrangers la possibilité de signaler la naissance de leurs enfants en Malaisie et de donner le certificat de naissance, mais les enfants ne peuvent pas être ramenés en Malaisie s'ils sont sortis de la Malaisie. C'est parce que la réglementation en Malaisie interdit à tous les travailleurs étrangers de se marier autre que les citoyens malaisiens et d'avoir des enfants pendant le travail. Si un travailleur étranger le fait, il sera considéré comme ayant violé les permis de travail délivrés par le gouvernement malaisien et son enfant ne sera pas considéré comme un citoyen malaisien et n'aura pas de droit aux facilités du gouvernement malaisien. Un certain nombre de petites et moyennes entreprises de batik national ont participé à une exposition internationale sur le thème « Le batik de l'Indonésie pour le monde » au siège de l'UNESCO à Paris, en France. Le ministère de l'Industrie a facilité leur participation. L'exposition a eu lieu du 6 au 12 juin 2018 pour commémorer 9 ans du tissu de batik indonésien qui inclut la liste représentative du patrimoine culturel en tant que chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis le 2 octobre 2009. La directrice générale de petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie, Madame Gati Wibawaningsih, a déclaré lundi dans un communiqué que le but d'organiser l'événement, le batik indonésien pour le monde, était de montrer au monde la richesse culturelle de batik national, la compétence de son artisan et la continuité de l'industrie indonésienne du batik. Le ministère de l'Industrie a noté que la valeur des exportations de batik et de produits de batik en 2017 a atteint 58,46 millions de dollars américains avec le principal marché d'exportation vers le Japon, les États-Unis et l'Europe. Selon Gati Wibawaningsi, cela a indiqué que l'industrie nationale du batik est compétitive sur le marché international. Le gouvernement indonésien est demandé de prendre des mesures immédiates pour surmonter l'impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine afin de ne pas affecter l'économie indonésienne. C'est ce qu'a affirmé le président de la politique publique de l'Association des employeurs indonésiens ou APINDO, M. Sutrisno Iwantono, à Antara News mardi. Sutrisno Iwantono a déclaré: en raison des guerres commerciales des deux grandes économies du monde, pourrait provoquer une incertitude économique. Il pourra étouffer la croissance économique mondiale cette année qui devrait s'améliorer. Il a expliqué: la protection en Amérique et en Chine provoque que le produit des deux pays va inonder le marché mondial et va déprimer les prix mondiaux, y compris le prix des produits d'exportation de l'Indonésie. Selon lui, pour surmonter cet impact, le gouvernement indonésien doit maintenir la stabilité économique nationale et maintenir la confiance du public. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'industrie manufacturière augmentera la productivité après les vacances de l'Idul Fitr, qui va stimuler la croissance au troisième trimestre de 2018, ou plus élevée que la période précédente. Il a été déclaré par le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, à Jakarta mardi. Le ministre estime que les élections locales cette année dans diverses régions en Indonésie aura un impact positif sur la production de l'industrie manufacturière. Certains secteurs manufacturiers qui sont susceptibles de croître rapidement en raison de la demande élevée de l'intérieur durant le mois de Ramadan et les élections régionales sont entre autres l'industrie alimentaire et des boissons, les textiles et les chaussures. Le ministre du Village, du Développement et des Régions sous-développées et la Transmigration, M. Eko Putro Sanjoyo, a mentionné qu'en 2018, l'investissement privé au village avait plus de 50 trillions de rupiah à travers le programme de produits excellents des zones rurales. Cet investissement est valorisé pour faire progresser le village en créant un produit excellent du village. Le ministre Eko Putro Sanjoyo a déclaré lundi à Jakarta qu'à travers de ce programme, le village se concentrait sur la plantation de certains types et il y a ensuite un programme post-récolte. Avec ce programme, les villageois peuvent avoir la certitude de planter. En outre, selon le ministre, le programme est également capable de créer et d'absorber les main-d'œuvre au village. De plus, dans ce cas, le ministère du Village, du Développement et des Régions sous-développées et de la Transmigration est également aidé par d'autres ministères tels que le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics et du Logement, le ministère de la Santé, etc., afin que le programme soit optimal. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Kim Jong-un a visité Pékin ». Au cours de l'année 2018, Kim Jong-un a visité Pékin trois fois. Mardi 19 juin 2018, le plus haut dirigeant de la Corée du Nord a rencontré le président chinois Xi Jinping. Bien que les détails de la réunion des deux jours n'aient pas été annoncés, il est prévu que les deux discussions se rapportent à la réunion de Kim Jong-un avec le président américain Donald Trump tenue la semaine précédente à Singapour. Les relations entre la Corée du Nord et la Chine en tant que pays avec l'idéologie communiste se déroulent depuis l'ère du prédécesseur de Kim Jong-un, le grand-père de Kim Il-sung et son père Kim Jong-il. Kim va également demander l'aide de la Chine pour réduire les sanctions économiques américaines en contrepartie de l'engagement de la Corée du Nord à la dénucléarisation. Lors d'une réunion à l'ONU, la Chine a proposé que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse réduire les sanctions économiques. Bien qu'il ne soit pas impliqué directement à la réunion à Singapour, Xi Jinping est estimé avoir confié le message, un certain message, à Kim Jong-un avant la réunion de Singapour. La Chine veut que sa position dans les coulisses reste importante pour la Corée du Nord. L'une des choses que la Corée du Nord veut avant une rencontre avec Trump est la cessation des exercices militaires américains avec la Corée du Nord. On dit que Trump a pris une politique pour arrêter l'activité sans beaucoup de consultations avec le Pentagone. La Chine espère que les résultats de la rencontre de Trump avec Jong-un fera les États-Unis retireront leurs troupes de la péninsule coréenne. Depuis la rencontre avec Trump, l'étoile de Kim Jong-un est plus brillante. Il y avait au moins deux invitations importantes pour lui. L'invitation du président russe Vladimir Poutine, qui va rencontrer le leader de la Corée du Nord, un pays qui était un allié à l'époque de la guerre froide, et l'invitation du premier ministre japonais Shinzo Abe, qui espère également rencontrer Kim Jong-un pour discuter entre autres de la question des enlèvements des citoyens japonais par la Corée du Nord. Le contenu de la réunion entre Kim Jong-un et Xi Jinping est inconnu, mais au moins les attentes positives qui ont été établies ne sont pas démolies. Le processus de paix dans la péninsule coréenne ne se réalisera pas immédiatement, mais ce qui s'est bien passé devrait continuer et se développer comme prévu par de nombreuses parties. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec l'histoire de Zouklouï qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « L'Angleterre a reconquéri l'île de Sandwich du Sud ». Le 20 juin 1982, les troupes britanniques reprennent l'île Sandwich du Sud et annoncent la fin de la guerre après avoir déplacé la garnison d'Argentine de Tour du Sud à la base de Corbeta en Uruguay. La guerre des Malouines s'est officiellement terminée après 74 jours. Pendant la guerre, 255 personnels militaires britanniques et 649 personnels militaires argentins et 3 civils malais ont été tués. Le document de la reddition de l'armée argentine à Falkland est maintenant mis au musée de l'Imperial War de Londres. Les relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et l'Argentine viennent de rétablir en 1989 après que les deux pays ont convenu de ne plus discuter de la question de la souveraineté de cette île. L'autre information est sur Berlin, capitale de l'Allemagne réunifiée, le 20 juin 1991. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification en 1990, les parlementaires allemands décident de redonner à Berlin son statut de capitale. C'est Bonn qui, depuis la partition de l'Allemagne, faisait office de capitale fédérale. Le palais de Reichstag, incendié par les nazis en 1933, 33 sera rénové et accueillera le Bundestag au Parlement allemand en 1999. Serviteurs, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée mondiale des réfugiés. La Journée mondiale des réfugiés est une journée internationale ayant pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde, ayant lieu le 20 juin chaque année depuis 2001, l'an de 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En 1914, l'Église catholique a institué une journée mondiale du migrant et du réfugié qui est célébrée chaque année le deuxième dimanche après le 6 janvier. Serviteurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre l'industrie nationale vers l'économie circulaire. Le gouvernement indonésien développe intensivement le concept d'économie circulaire dans le processus de production. Avec ce concept, les matières premières brutes peuvent être utilisées plusieurs fois dans différents cycles de vie des produits. Contrairement à l'économie linéaire qui adopte le principe take, make, dispose, les principes fondamentaux du concept d'économie circulaire sont repenser, réduire, réutiliser, recycler et récupérer ou réparer, plus connu sous le nom de 5R. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'Agence de recherche et de développement industriel du ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie, Ngakan Timur, à Antara, à Jakarta, récemment. Ngakan a expliqué que le principe de 5R peut être fait en réduisant l'utilisation des matières premières de la nature ou réduire par l'utilisation optimale de matériaux réutilisables ou réutilisés et l'utilisation de matériaux résultant du processus de recyclage ou du processus de récupération en réparant. En outre, la production de déchets due au processus d'élimination peut être réduite par les efforts de réutilisation, de recyclage et de récupération des déchets qui ont encore de la valeur. Selon Ngakan, actuellement, l'industrie de transformation est toujours un pilier important pour l'économie nationale. Au premier trimestre de cette année, l'industrie manufacturière est le principal contributeur du produit intérieur brut, avec une contribution atteignant 20,2% du produit intérieur brut national total. Il espère, sur la base de la grande contribution de l'industrie de transformation à l'économie nationale, le secteur manufacturier devienne un secteur de premier plan et aura un impact considérable sur la transformation de l'économie nationale vers l'économie circulaire. Pour la réaliser, le ministre de l'Industrie a fait un programme d'industrie verte. Selon lui, l'industrie verte est un mandat de la loi numéro 3 de 2014 sur l'industrie. Dans cette loi, l'industrie verte est définie comme une industrie dont le processus de production priorise les efforts efficaces et l'efficacité de l'utilisation des ressources de façon durable. L'Agence de recherche et de développement industriel du ministère de l'Industrie, par intermédiaire du Centre de recherche et de développement de l'industrie verte et environnementale, continue d'encourager l'industrie manufacturière nationale à mettre en œuvre l'industrie verte à travers plusieurs programmes. La certification de l'industrie verte est une série d'activités d'émission de certificats aux entreprises industrielles en conformité avec la norme de l'industrie verte. La norme de l'industrie verte est une référence des acteurs de l'industrie dans la conduite de ces processus industriels en conformité avec le principe de l'industrie verte. La certification de l'industrie verte est organisée par l'Institut de la certification de l'industrie verte, LSIH, qui est sous le ministère de l'Industrie et le SIH privé. À ce jour, 14 LSIH ont été enregistrés par le ministère de l'Industrie par le règlement du ministre de l'Industrie numéro 41 de 2017 sur LSIH. Les entreprises industrielles peuvent s'adresser directement à l'Institut SIH conformément à son champ d'application. Ngakan a ajouté que le ministère de l'Industrie a lancé également le programme d'aide de la certification de l'industrie verte depuis l'an 2017. Le programme d'aide a ciblé un groupe d'industrie du ciment Portland, un engrais monomacronutritif, le caoutchouc crampe, la fugitation de caoutchouc et le traitement du lait en poudre. Pour la mise en œuvre des activités d'assistance de la certification de l'industrie verte en 2018, il y a 16 entreprises de l'industrie qui sont certifiées comme l'industrie verte. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons la danse de Japan de l'Est de Kalimantan. Restez à l'écoute. Cerita, Kalimantan Est est une province où la rivière Mahakam coule. Dans cette banlieue de la rivière Mahakam, une danse dite Japan se développe. C'est une danse typique de Kalimantan Oriental développée par la tribu Kutai et Banjar. La danse a divers mouvements qui sont influencés par la culture islamique et malaise. La danse Japan est l'une des danses qui décrit la culture malaise qui est dynamique, attrayante, énergique et gracieuse. La danse est habituellement dansée par les danseuses. Secrétaire, au fil du temps, la danse Japan a de nombreux développements sur lesquels, dans sa performance, la danse Japan se compose de deux types, à savoir la danse Japan Genjo et la danse Japan Ero. La danse Japan Ero est une danse de création de Japan qui ne quitte pas son mouvement originaire comme l'honneur, les vagues, la samba satanique ou la samba setangan, la samba pleine et la gengsot anak. Ero en langue Kutai signifie bondé, turbulent et heureux. Tandis que la danse Japan Genjo Mahakam est l'une des danses de création de Japan où la plupart de ses mouvements proviennent de la danse Japan. Par exemple, le mouvement des vagues, la moitié samba, la pleine samba, balance l'enfant, jalan kenya, salwang mudik et le mouvement de taktim. En général, on peut dire que la danse Japan Genjo Mahakam est celle qui décrit la culture malaise. Secrétaire, dans sa performance, la danse Japan est accompagnée de la musique tingkilan. La musique tingkilan est l'une des musiques typiques de Kutai. Dans la musique tingkilan, les instruments joués sont gambus ou un instrument à cordes. Ketipung ou gendang de petit tay, kendang et violon. Actuellement, la danse est accompagnée de piano. En outre, il est également accompagné d'une chanson appelée bertingkilan qui signifie de crier l'un l'autre. La chanson est habituellement chantée par deux personnes qui contient des conseils religieux et un message moral. Secrétaire, lors de la performance, les danseuses de Japan portent des vêtements combinés de malais et d'indonésien qui est d'épée de nuance islamique. Avec un maquillage naturel, les danseuses sont bien maniérées et gracieuses. En dansant, elles sont complétées avec des châles. Dans le passé, Japan est dansé comme divertissement dans le cadre du couronnement du roi. Le sultanat de Kutai Kartanegara à Tenggarong est comme danse sociale pour les jeunes. Ainsi, depuis les années 1970, la danse est utilisée pour accueillir des invités, des cérémonies de mariage et pour d'autres grands événements comme l'anniversaire de la province de Kalimantan Oriental. Secrétaire, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui, avec le titre « La danse de Japan de l'Est de Kalimantan ». Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est Teh manis. Je répète, teh manis, ou en français, le thé sucré. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Teh manis ou le thé sucré. L'emplacement du dialogue est à la maison de Joko. La famille de Joko célèbre le jour de l'aide. Tony et Joko et Dinda a préparé des repas et du thé sucré. Dinda goûte le thé sucré. Dinda. Tehnya kurang manis. Tony. Oh, aku akan ambil gula. Dinda. Biar aku saja. Tony. Oke. Gulanya aku simpan di dekat kompor. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Teh manis. Teh manis. En français, le thé sucré. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et vous pouvez le répéter après moi. Tehnya kurang manis. Tehnya kurang manis. Qui signifie le thé est moins sucré. Gula. Gula. Qui signifie sucre. Aku akan ambil gula. Aku akan ambil gula. Qui signifie je vais prendre du sucre. Biar aku saja. Biar aku saja. Qui signifie laisse-moi faire. Gulanya aku simpan di dekat kompor. Gulanya aku simpan di dekat kompor. Qui signifie je get le sucre près du poêle. Dans le dialogue, Dinda dit biar aku saja. Biar aku saja. Qui signifie laisse-moi faire quand Tony va prendre le sucre. Cette phrase est utilisée pour aider les autres, mais elle est seulement utilisée dans des situations informelles. Par exemple, biar saya saja yang memotong kue. Biar saya saja yang memotong kue. Qui signifie laisse-moi couper le gâteau. Et l'autre exemple, biar dia saja yang mengambil pisau. Biar dia saja yang mengambil pisau. Qui signifie laisse-le prendre le couteau. Ensuite, vous entendez tehnya kurang manis? Tehnya kurang manis. Qui signifie le thé est moins sucré. Alors, Vous entendez aussi le mot gulanya? Gulanya, qui signifie le sucre. Nya, dans le mot tehnya et gulanya, se réfère au thé et au sucre, cela signifie défini. Cette forme est communément trouvée dans le langage courant, comme dans le dialogue. Tony a dit, garpunya tidak ada. Garpunya tidak ada, qui signifie que la fourchette qu'il cherchait n'existait pas. D'habitude, les Javanais servent du thé sucré aux invités. Peut-être que ce sera trop sucré pour les gens qui n'aiment pas les aliments ou les boissons sucrées. Si vous êtes dans un restaurant et vous voulez demander du thé sucré, mais pas trop sucré, dites gulanya sedikit saja. Gulanya sedikit saja, qui signifie avec un peu de sucre. Ou gulanya satu sendok teh saja. Gulanya satu sendok teh saja, ou avec une cuillère à café de sucre. Si vous ne voulez pas utiliser de sucre, demandez un thé sans sucre appelé teh tawar. Je répète, teh tawar. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Tehnya kurang manis.
Oh, aku akan ambilkan gula.
Hah, biar aku saja.
Oke. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Maaf.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous donner un exercice en utilisant des mots que nous avons déjà appris. L'exercice est décrivez votre maison en montrant votre adresse, la couleur de votre maison, le nombre d'étages de la maison, si plus d'un étage, et quelque chose autour de la maison, comme des arbres, des clôtures, etc. Par exemple, alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour 1 euro gagnant, et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain!
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve dans le magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Fatin. Et pour la commencer, écoutons la chanson s'intitule « Aku memilih setia ».
Mungkin engkau ada adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Cintamu bukan mungkin untuk membagi cinta tulusku. Biar aku memilih setia. Inilah akhirnya, harus ku akhiri sebelum
Voilà la chanson de Fatine Sidkia dont le titre est « Aku memilih setia » qui signifie « Je choisis d'être fidèle ». La chanson qui a été publiée en 2013 parle de quelqu'un qui a été tenté par d'autres, même si elle a déjà un amant. Bien qu'elle aime aussi la personne, mais elle a choisi d'être fidèle à son amant. La chanson intitulée « Aku memilih setia » est la première chanson de Fatine après avoir remporté un concours de musique sur une chaîne de télévision privée nationale. Ceux qui entendent la chanson de Fatine, ils reconnaîtront facilement la voix de Fatine parce qu'elle a une voix distinctive. Chers auditeurs, la chanson suivante à écouter, dont le titre est « Jangan kau bohong » ou en français « Ne mens pas ». Bonne écoute.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kalau kau begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau.
Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? I don't even care, I'm not even scared. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa.
Kau binasa.
Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata.
Now, kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengemis cinta yang sadis.
Please song, kau lebih tampan. Kau coba buatku sirik, itu tak mempan. Ya sirik itu kamu, cause you know you wrong. Kau bohongi hatimu takkan menolong.
Yeah, but after you don't need it, just won't play about it.
So just sing this song.
Sikapmu dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-e.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Jangan kau bohong » par Fatine. Fatine est une chanteuse qui portait toujours le voile. Mais cela ne signifie pas qu'elle chantera toujours des chansons pop qui sont tristes ou islamiques. Dans la chanson « Jangan kau bohong », il y a une combinaison de genres musicaux entre la musique pop, la hip-hop et l'électronique. Cette chanson est la preuve que Fatine est assez flexible dans la musique. La chanteuse née à Jakarta le 30 juillet 1996, elle a déjà réalisé de nombreuses réalisations, non seulement en Indonésie, mais aussi à l'étranger, comme le prix du meilleur nouvel acte féminin asiatique au DAF Bama Music Award en Allemagne en 2016 et le prix de l'artiste populaire de la planète musicale de Singapour en 2015. Bon, chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel sur Fatine. Pour la terminer, écoutons deux autres chansons de Fatine dont les titres sont « Shoot me now » ou « Tire-moi maintenant » et « Dia, dia, dia » ou en français « Lui, lui, lui ». Bonne écoute et à la prochaine!
Kata rayumu dan ku tahu kamu mencoba untuk berbicara tentang isyarat cinta. Ku mengerti ini sulit untukmu dan ku tahu aku bahkan takkan pernah bisa untuk katakan cinta. Sadarkah bila aku
depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Selalu ku pikir bahwa aku tegar. Aku tak pernah menyangka
dari sisiku lagi. Baru ku rasakan arti kehilangan. Ingin ku bicara hasrat pengungkapan, masih pantas aku bersamamu melalui hitam putih hidup ini. Saat engkau pergi tak kau bawa hati, dan tak ada lagi yang tersisa. Dia, dia, dia telah mencuri.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110, ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.